avec Hélène Denis.
Chanson Le Poids de Jeanne Côté.
Oui, Jeanne Côté, quel talent, une fille qui vient de la Gaspésie, d'une famille musicale, et puis qui donnait un avant-goût de son grand talent. C'était en 2019, un EP réalisé par nul autre que Louis-Jean Cormier. Et puis ensuite, elle a gagné les Francouvertes en 2023. Et Le Poids qu'on vient d'entendre est le premier extrait de son album Avenir qui s'en vient le 28 février 2025. Les par actualité maintenant sur le site de Radio-Canada, Priscilla Plamondon, La Lancette, qui parle de l'esclavagisme lié au sommeil. Au moins 20 000 Canadiens s'endorment partout, plusieurs fois par jour. Ils souffrent de narcolepsie, une maladie rare, méconnue, incurable, qui provoque des envies de sommeil incontrôlables. Au Québec, des traitements qui ont fait leurs preuves tardent pourtant à être remboursés, ce que dénoncent patients et médecins. En 2004, Vicky Dallaire revient de l'école secondaire à pied lorsqu'elle est prise d'une soudaine envie de fermer les yeux. Son coup de fatigue est tel qu'elle s'endort debout sur le trottoir. Après une sieste de 5 minutes, elle reprend sa route. Vicky est alors loin de se douter qu'elle a un trouble neurologique. En 2007, Vicky a commencé à faire des recherches sur ses siestes involontaires. Elle a parlé à un médecin de la somnolence excessive et récurrente qui affecte son quotidien. 4 ans plus tard, alors qu'elle était enceinte de sa fille, un test de parasomnie passé à la clinique du sommeil de l'hôpital de Chicoutimi a permis de confirmer le diagnostic, une narcolepsie de type 2, aussi appelée syndrome de Gélinot. les attaques de somnolence peuvent être très importantes durant la journée, avec des endormissements rapides et gênants, potentiellement dangereux selon les circonstances où ça survient, explique le docteur Milan Nigam, neurologue et somnologue à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal qui traite des patients comme Vicky. Environ une personne sur 2000 est atteinte de narcolepsie, mais la réelle prévalence est probablement plus élevée puisque, comme bien des maladies rares, elle est méconnue du public et du corps médical et donc sous-diagnostiquée, précise le médecin spécialiste. Les personnes atteintes de narcolepsie se sentent souvent incomprises et stigmatisées, confirme le docteur Nigam. C'est une condition invisible parce qu'il n'y a pas de handicap moteur. De l'extérieur, on sous-estime l'impact que ça peut avoir au quotidien. Maintenant, l'Ontario est très loin de la cible, affirme le militant David Lepofsky au sujet de la loi ontarienne adoptée en 2005, selon laquelle tous les bâtiments de la province devraient être accessibles aux personnes handicapées en date du 1er janvier 2025. Les gouvernements successifs ont été prévenus que l'Ontario n'atteindrait pas l'objectif fixé dans la loi de 2005, qui est aveugle, et M. Lepofsky, c'est lui qui ajoute cette information-là, il est aveugle et il est président de l'organisation qui s'appelle Accessibility for Ontarians with Disabilities Act Alliance. Pour le Torontois Beau Hayward, qui se déplace en fauteuil roulant, l'un des plus grands obstacles actuellement est l'accessibilité des stations de métro de la Commission de transport de Toronto, la CTT, qui affirme que 57 de ses 70 stations de métro sont accessibles et que des travaux sont en cours pour installer des ascenseurs à ces autres stations. Raymond Chaud, ministre des Services aux aînés et de l'accessibilité, qui a 88 ans et qui a des troubles auditifs, dit comprendre les difficultés auxquelles les personnes handicapées font face. À la fin de l'an dernier, il assurait toutefois que, projet par projet, l'Ontario était sur la bonne voie pour atteindre sa cible de pleine accessibilité. L'expert Rich Donovan, qui a réalisé un rapport en 2023 sur la loi de 2005, a conclu, lui, que le gouvernement n'en faisait pas assez pour faire respecter la réglementation, affirmant qu'il s'agissait d'une crise. Le gouvernement a beau créer des normes, si les compagnies ne les adoptent pas et ne les mettent pas en pratique, ça ne sert à rien, affirmait-il récemment en entrevue à CBC. Et finalement, la ville de Trois-Rivières a donné son aval relativement au contrat de construction destiné à la restauration de la salle J. Antonio Thompson. La restauration de cette salle vise à combiner modernité et préservation patrimoniale. Les travaux s'échelonneront du début 2025 à l'automne 2026. Ils incluront l'intégration d'un parcours pour les personnes à mobilité réduite, la rénovation du bâtiment, l'optimisation des installations scénographiques ainsi que le remplacement des sièges. Parallèlement, le projet met en valeur le riche héritage patrimonial du bâtiment avec une restauration des décorations dorées intérieures de la salle créée en 1928 par l'artiste Emmanuel Briffa. Après la chanson des Cowboys fringants, c'est la chronique d'Anne-Marie Aubin qu'on rejoint à Maria en Gaspésie.
Je m'arrête un instant pour te parler de ma vie, juste comme ça, tranquillement, dans un bar rue Saint-Denis. Je te raconterai les souvenirs bien gravés dans ma mémoire de cette époque où vieillir était encore bien illusoire. Quand j'agaçais les petites filles pas loin des balançoires et que mon sac de billes devenait un vrai trésor. Ces hivers enneigés à construire des igloos et rentrer les pieds gelés juste à temps pour passe-partout. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de la petite école et de la cour de récré. Quand les avions en papier ne partent plus au vent,
se dit que le bon temps passe finalement comme une étoile filante. Si je m'arrête un instant pour te parler de la vie, je constate que bien souvent on choisit pas mais on subit, et que les rêves des ticus s'évanouissent ou se refoulent dans cette réalité crue qui nous embarque dans le moule. La trentaine, la bédaine, les morveux, l'hypothèque, les bonheurs et les peines, les bons coups et les échecs. Travailler, faire de son mieux, n'arracher, s'en sortir et espérer être heureux un peu avant de mourir. Mais au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester de notre petit passage dans ce monde effréné. Après avoir existé pour gagner du temps, on dira que l'on était finalement des étoiles filantes. Comme ça, tranquillement, pas loin du carré Saint-Louis. C'est qu'avec toi, je suis bien et que j'ai plus le goût de m'en faire. Parce que, tu sais, voir trop loin, c'est pas mieux que regarder en arrière. Malgré les vieilles amertumes et les amours qui passent, les chums qu'on perd en brume et les idéaux qui se cassent, la vie s'accroche et renaît comme les printemps reviennent dans une bouffée d'air frais qui apaise les cœurs en peine. Ça fait que si à soir, t'as envie de rester avec moi, la nuit est douce, on peut marcher. Et même si on sait bien que tout dure rien qu'un temps, j'aimerais ça que tu sois pour un moment mon étoile filante. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Et au bout du chemin, dis-moi ce qui va rester. Des étoiles filantes.
Et Anne-Marie Aubin est au bout du fil. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour Hélène.
Bonne année très chère.
Bonne année à toute l'équipe aussi.
Et sur le plan que vous m'avez envoyé hier, je pouvais lire « Suggestion musicale d'introduction ». Les Cowboys fringants, les étoiles filantes, pourquoi?
Parce qu'effectivement, cette chanson-là est citée dans le roman de Jean Lemieux, dont il est question aujourd'hui. Et puis, c'est toute la symbolique de la vie qui passe vite et puis qu'on n'est pas grand-chose dans la vie. Malgré qu'on soit dans un roman policier avec une intrigue, il y a toujours chez Jean Lemieux un souci de parler des gens, de la vie, des plaisirs qu'on peut avoir, des soucis qu'on a dans la société. Donc, c'est pas juste un roman où on suit l'intrigue de page en page, mais je dirais qu'il y a beaucoup d'humanisme dans ce qu'il écrit, et particulièrement dans celui-là, la chanson est citée. Voilà pourquoi l'introduction, c'était cette chanson.
Tout à fait pertinent comme choix. Alors, l'affaire des Montants, Montants écrit M majuscule, et puis c'est la 8e enquête d'André Surprenant. Je pense que vous avez lu pas mal toutes les enquêtes, si je m'abuse.
Oui, effectivement. Et Montants avec un M majuscule, il faut le préciser, parce qu'il n'y a pas question d'argent ici, là, mais d'un lieu dit... aux îles, qui s'appelle comme ça, la rue des Montants, la route des Montants. Et comme il y a des buttes puis des côtes, on peut penser que ça a un rapport avec ça. C'est paru en 2024, à l'automne. C'est un roman de 297 pages qui se dévore très rapidement. Alors, il faut savoir que Jean Lemieux, c'est un médecin qui a pratiqué aux îles pendant plusieurs années. Donc, il connaît bien les îles de la Madeleine. C'est quelqu'un qui est passionné de musique et de voyage. Et puis, dans ses temps libres, ben, il écrit des romans. Dans le passé, il a écrit des romans jeunesse, il a écrit des romans pour adultes aussi. Et puis, ben, celui-là fait partie d'une série qui a été adaptée à l'écran. Le premier de la série des enquêteurs surprenants a fait l'objet d'un film qui s'appelait La peur de l'eau. Et plus récemment, une télésérie qui s'appelle Détective surprenant. Et la première série de 6 épisodes, je crois, c'était La fille aux yeux de pierre.
Oui, et demain, à TVA, on présente cette télésérie à compter de 20h avec Patrick Yvon et Catherine Brunet. Belle distribution.
C'est vraiment excellent. On est sur une île, mais on n'a pas de repère comme quoi c'est vraiment les îles de la Madeleine.
Ah non?
Tout a été tourné là. C'est vraiment fascinant. Moi, je l'ai dévoré, la série, parce que je connaissais toutes les enquêtes de surprenants, puis je voulais voir comment ça avait été adapté. Et c'est quelque chose qui serait international, qui pourrait aller dans n'importe quel pays, finalement, parce qu'ils ont volontairement pas mis l'accent sur la façon de parler des Madelinos, là. Alors que contrairement, Jean Lemieux le fait, lui, dans son livre, parce que il aime bien les Madelinos, puis il est capable de rendre un peu leur superstition, leur manière de vivre, leur accent. Parce que, par exemple, là où ils sont, à Havre aux Maisons, ben, les gens, ils prononcent pas les R, ils mettent des Y à la place. Fait que c'est comique d'entendre, parce qu'il écrit vraiment là, au son ce que les répliques des dialogues.
Ça donne quoi?
Ça fait comme, au lieu de, je sais pas, moi, travailler au lieu de travailler.
OK. Ben,
c'est ça. Alors, c'est très amusant. Et puis, bon, ben cette enquête-là, surprenant, se déroule aux îles de la Madeleine pendant le temps des fêtes. Alors, comme le temps des fêtes achève, ben, je me suis dit que c'était peut-être pertinent de proposer ça pour terminer son congé des fêtes.
Au lendemain de la fête des rois.
Voilà. Alors, donc, c'est un roman qui est divisé en 30 chapitres. Puis, chaque chapitre a un titre qui nous incite à penser qu'est-ce qui va se passer dans l'intrigue. Là, c'est comme un petit ajout et ça se passe dans le chapitre en question. Il est question des îles, bien sûr. Mais dans celui-là, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de place pour les femmes. Il est question des problèmes qu'on a aux îles, le surtourisme, la spéculation foncière. Les gens des îles, ils peuvent pas s'acheter une maison parce que c'est les gens de la ville qui ont acheté ça, qui louent ça ou qui viennent juste quelques mois par année. Bon, c'est une problématique. L'érosion des berges, bon, les naufrages qui ont eu lieu. Puis bon, ben, il y a la vraie vie de Monsieur Surprenant avec sa femme, ses enfants aussi, la famille. Et comme c'est le temps des fêtes, c'est un moment où on pense beaucoup à la famille. Donc, il y en a question beaucoup là-dedans. Donc, ça se déroule en hiver. Ça, c'est intéressant parce que les autres intrigues se passaient pas pendant l'hiver. Donc, les paysages sont différents, la description du temps qui fait. Et le drame qui se passe, et pourquoi il est obligé de partir là un 20 décembre, c'est qu'il y a une femme qui élève des agneaux de pré salé qui s'appelle Florence Turbide, qui a été trouvée morte dans la nuit du 19 au 20 décembre, tout près de chez elle, alors qu'elle promenait son chien. Le chien est mort aussi. Et puis là, ben, sur place, elle va être jumelée à l'enquêtrice qui est là, qui s'appelle Olivia Manceau, qui est une toute jeune policière. Puis les gens, ils font pas trop confiance, finalement, parce qu'elle a pas l'allure d'un policier. Elle a l'air d'une étudiante qui nous dit qu'elle serait en visite avec son sac à dos, là. Donc, elle est toute jeune. Et lui, ben, il est plus vieux, il a 52 ans, il a du métier. Ben, il l'envoie là pour régler ça, vu qu'il connaît aussi beaucoup les îles, puis qu'il a déjà été résoudre des problèmes là-bas. Donc, moi, j'ai trouvé ça intéressant, cet aspect-là, d'ajouter des femmes là-dedans, parce que d'une part, bon, c'est un féminicide. Cette femme-là est trouvée morte, puis on va connaître toute l'histoire. L'enquêtrice qui travaille avec lui est une jeune femme qui essaie de faire sa place dans le milieu policier, qui a beaucoup de mal. Elle va subir de l'intimidation. On entend parler de ça. C'est pas décrit comme tel, mais on comprend ça. Et parallèlement, lui, surprenant qu'il a 52 ans, ben, sa mère a des problèmes de santé. Elle a un cancer, elle a fait un AVC, elle est diabétique. Et il repense beaucoup à elle, qui est allée voir juste avant de partir. Et cette femme-là, dans tous les tomes de la série, on en apprend un petit peu plus sur son passé et sur comment est né et a été conçu André Surprenant. Il y a tout un mystère autour de ça. Puis ça, c'est intéressant parce que d'un tome à l'autre, on apprend là-dessus. Et là, je cite l'auteur qui dit: l'amour des mères et des femmes en général était un trésor d'une richesse infinie que les hommes pillaient depuis la nuit des temps. Alors ça fait référence à ce qu'il constate, ce qu'il apprend chez sa mère, ce qu'il apprend chez cette jeune femme-là, puis tout ce qu'il a appris dans son métier de policier, finalement, où il a fréquenté des femmes, puis où il a vu des cas de toutes sortes de couleurs, comme on dit, là. Alors lui, il est sur le cap à quelque part, c'est la nuit du 20 ou 21 décembre. Là, il nous décrit le paysage. Puis, il repense à cette victime qui s'appelle Florence et sa meilleure amie qui s'appelle Aya, qui ont toutes les deux perdu leur père dans un naufrage à la même date, 38 ans auparavant. Donc, dans la nuit du 19 décembre, y a 38 ans. Ces petites filles-là avaient 3-4 ans. Et puis, leur père n'est pas revenu à quelques jours de Noël. Fait qu'il se demande, lui, qu'est-ce qu'elles ont ressenti, ces deux filles-là. Et tout à coup, ça lui rappelle à lui, et je le cite, il se revit à 9 ans, en décembre 1970, dans le salon du logement de la rue Riendeau à Iberville. Un peu plus loin, il dit, il avait espéré jusqu'à la dernière minute que son papa pousse et vienne s'asseoir à la place au bout de la table. Le beau Maurice s'était pas présenté le 24 décembre 1970, pas plus qu'aux 37 autres 24 décembre qui avaient suivi.
Porté disparu.
Oui, exact. Et c'est très long avant que le fils va retrouver son père. Et puis là, on apprend pourquoi et tout ça. Donc, cette espèce de manque, d'absence que lui a ressenti, il le revoit parce que ces petites filles-là ont dû vivre ça pendant plusieurs années, elles aussi, suite au naufrage. Puis on sait que les naufrages, c'est quelque chose de fréquent aussi aux îles de la Madeleine.
Donc, ça crée un personnage plein d'humanité qui est capable de compassion, de se mettre à la place de l'autre.
Tout à fait. Et c'est ça qu'on apprécie à la lecture, cet homme-là, qui n'est pas un policier tout à fait correct. Parfois, là, il fait les angles un peu ronds. Ben, on s'attache à lui parce qu'il est humain. Et puis, plus il avance dans la série, plus il s'interroge sur la vie. Exact. C'est pour ça que j'ai mis les étoiles filantes, parce que il voit que la vie tient parfois un fil et il se voit vieillir aussi, puis il s'interroge sur tout ça. Puis bon, il fait un peu, en retournant là, alors que ça fait des années qu'il a quitté les îles, ben il se retrouve au moment où il était avec sa femme, avec ses enfants, et puis tout ce qui s'est passé depuis ce temps-là.
Est-ce que c'est surtout par ce personnage-là qu'on est dans ce type de questionnement existentiel-là, de philosophie?
Oui, c'est un peu ça, effectivement, parce qu'il y a des allusions à plein d'autres choses qu'aux îles. Il y a question de, je dirais, mythologie là-dedans, il y a question de littérature, il y a des allusions à la musique, à la gastronomie. Au sens de la vie, finalement, il y a quelqu'un à un moment donné qui va dire « la vie est plus importante que les morts ». En tout cas, il y a des petites phrases comme ça qui nous font réfléchir au fil de la lecture. Et il y a le beau langage des Madelineaux, comme un amariné comme toi. Il va y dire ça pour attirer son ami. C'est quelqu'un qui est né près de la mer, qui connaît la mer. Une adonnance, ça veut dire un adon, un hasard. Du chiard, ça c'est la nourriture qu'il prépare pour le temps des fêtes. Et il y a des petits indices comme il y avait nothing pour dire il y avait rien. Bon, alors il y a des très belles descriptions des îles de la Madeleine, l'hiver, la nuit. Ça c'est magnifique. La lune, l'éclairage. Il y a beaucoup de questions de la mer MER, la mer ME, accent grave RE, et la lune. Donc, quand je disais que les femmes sont importantes dans ce texte-là, c'est un fait. Il nous parle de l'architecture des maisons, des réalités que les gens vivent là-bas avec l'érosion. Et comment il y a les maisons, ce qu'il appelle ça les maisons mortes en hiver, c'est des gens de la ville qui achètent des maisons, puis qui viennent seulement l'été. Parce que là, les maisons sont vides, et puis c'est triste de voir ça dans le paysage. Et comme c'est un grand lecteur, bien, il y a beaucoup de références à la littérature et à la musique, puis aussi au goût, parce que cet homme-là aime manger, il boit des vins raffinés, là, il est quelqu'un qui est un connaisseur, et on sait ce qu'il mange, il nous le dit.
Ah, ça, on aime ça.
Oui, on aime beaucoup ça. Alors, je dirais que j'ai dévoré ça en...
Vous l'avez dévoré.
Non, vraiment, j'ai adoré ça. Je me suis plongée là-dedans. Et puis, le suspense est là, mais il y a aussi l'atmosphère de autour de lui, les moments du passé qui sont racontés. Et puis, il y a des références à des vrais faits. Par exemple, le 23 décembre, il y a une grosse tempête de neige aux îles de la Madeleine. Et quelqu'un l'appelle, lui dit « t'es pas au courant ». Il dit, il y a Vito Rizzuto qui est mort. Et puis effectivement, c'est vrai, j'ai été vérifié. C'est arrivé le 23 décembre 2013, parce que l'action se passe en 2013. Donc, il y a des faits réels qui sont là. Et puis, comme le premier suspect, c'est quelqu'un qui s'appelle Santoro, ben on peut penser un lien avec l'Italie, la petite Italie. Donc, la mafia, et ça, il y en est souvent question dans les séries policières. Donc, ça se passe pas juste aux îles, donc finalement, il y a aussi des liens avec l'Italie. Bref, un très bon roman que je propose à tous ceux qui sont fans de romans policiers. Puis s'il y en a qui suivent la série télévisée, ça va leur donner le goût aussi.
Même si on n'a pas lu les 7 premières enquêtes?
Oui, c'est pas nécessaire parce qu'il est habile, l'auteur, il met en bas de page quand il est question de quelque chose du passé, bon, mais il met une petite note pour qu'on comprenne très bien. Puis il y a des passages parfois en italien qui sont traduits en français. S'il y a des références à quelque chose qui est particulier aux îles, ben là, c'est écrit en bas de page. Voilà pourquoi il y a telle chose qui est écrite là. Donc, ce qui fait que on peut commencer la série où on veut. Puis une fois qu'on a connu cet enquêteur, André Surprenant, ben on ne veut plus le quitter. Fait qu'on va voir les autres tombes. Parfois, là, pour bien comprendre le 8, mais ça, moi, c'est un peu particulier chez moi, je vais voir celui d'avant, puis je vais relire mes notes. Parce que je prends beaucoup de notes quand je lis ça, parce que je veux vous en faire part, parce que je veux tout comprendre. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de personnages, puis ils sont très colorés. Quelqu'un qui s'appelle Platon Longue-Épée, là, c'est pas courant, à tous les coins de rue. Bon, ben, et c'est des noms qui existent vraiment, sans doute, aux îles. Ils ont des noms particuliers là-bas. Et puis, ils sont souvent parents ensemble. Fait qu'ils vont dire c'est un tel à un tel. Là, ouais. Je sais pas, Alphonse à Alphée à je sais plus qui.
À Robert.
C'est ça, à un moment donné, il demande des informations sur Daniel Poirier à son aubergiste. Il dit lequel? Il y en a trois aux îles. C'est ça. C'est les noms qui sont très répandus.
C'est Daniel et Anne-Marie.
Pardon?
Non, j'ai dit c'est Daniel et Anne-Marie.
Oui, c'est ça. Ouais. Bon, puis, une chose qui est importante aussi, c'est les Acadiens. Alors, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va dire que c'est le deuxième grand dérangement, le premier grand dérangement étant les événements qu'on connaît. Puis lui, il dit que le deuxième, bien, c'est le fait que des étrangers viennent, achètent les maisons, achètent les terres, puis qu'il n'y a plus rien qui va appartenir aux Madelino, finalement. Fait que, non, c'est comment je dirais, parsemé de petites pensées, de petites réflexions qui font réfléchir et qui sont réelles.
Alors,
et
c'est un grand coup de cœur pour débuter l'année. L'affaire des Montants, c'est publié aux éditions Québec-Amérique et c'est écrit par Jean Lemieux. C'est sa huitième enquête. C'est la huitième enquête d'André Surprenant. Et vous disiez qu'on utilisait quelquefois des mots anglais. Il n'y avait pas nothing là-dedans, il y avait everything.
Everything, c'est ça.
Merci. Oui. Merci Anne-Marie. Merci. À la semaine prochaine.
À la prochaine. Au revoir.